Jeanne le roi allait chez les bêtes piolo.
I, 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 wo, wo, wo.
Grommelotte, la vieille truie, qui sommeillait au milieu d'une nuée de moucherons, se redressa soudain. C'est Piolo, dit-elle. Je suis sûre que c'est mon pauvre petit Piolo. Qu'est-ce qu'il a encore? Que lui a-t-on fait? Flochette, cours bien vite voir pourquoi il pleure, ton pauvre petit frère. Dans la cour de la ferme, toutes les bêtes étaient paisibles et joyeuses quand les cris de Piolo étaient venus les troubler. Les vaches brunes ruminaient à l'ombre des pommiers, les bonnes juments paissaient pendant que leurs poulains folâtraient autour d'elles. Quelques agneaux broutaient sous la surveillance des mères brebis. L'âne, debout sur ses quatre pieds, regardait vaguement au loin, tout étonné qu'on le laissât si longtemps en repos. Sur la paille du fumier, les coqs claironnaient, les poules gloussaient, les petits poussins piaulaient en cherchant pâture. Plus loin, les canards et les oies barbotaient dans le ruisseau clair. Perchés sur une roue de charrette ou de tombereau, les dindons faisaient entendre leur glou-glou retentissant. Les pigeons bleus ou roses tournoyaient autour du colombier dans un frémissement d'ailes continu. Les gros porcs erraient de ça, de là, fouillant la terre et grognant sans motif. Puis, accablés de chaleur et de lassitude, s'effondraient tout à coup à l'abri d'un mur de grange. C'est de ce dernier groupe qu'était partie l'exclamation inquiète « Mon pauvre petit Piolo !» La complaisante Flochette ramenait son frère, toujours geignant.
J'ai perdu mon écuelle, une jolie petite écuelle percée que la servante avait jetée et avec laquelle je jouais depuis ce matin.
Où l'as-tu perdue, mon Piolo?
Je ne sais pas, Si je le savais, elle ne serait pas perdue, bien sûr, répondit Piolo avec assez de raison.
Béryl, un beau cheval gris pommelé, qui se trouvait là, près, dit durement. « Tu ne ferais pas mieux de le chercher, ton joujou, que de crier ainsi ?»«
J'aime mieux crier. »«
Oui, et nous casser la tête. Si j'étais ta mère, les bonnes tapes que tu recevrais, mon garçon !» Grommelotte jugea bon d'intervenir. « Oh, Béryl, pouvez-vous être si dur envers un pauvre petit qui s'est enfoncé une épine dans le pied ?»«
Mais il y a 3 semaines qu'on lui a enlevé son épine. Vous n'allez pas me dire qu'il s'en ressent encore. »«
Il est bien délicat. »«
Délicat ? Lui ? Il est si gros qu'il roule en marchant. »
Piolo, trouvant sans doute qu'il y avait trop longtemps qu'on ne s'était occupé de lui, recommença à geindre.
Je voudrais mon écuelle.
Flochette, ma fille, cherche bien vite le joujou de ton pauvre petit frère. Quand Flochette se fut éloignée, Béryl reprit avec impatience.
Ce n'est pas lui qui est à plaindre, ce pauvre petit, comme vous dites, Grommelotte, mais bien tous ceux qui l'assomment de ses criailleries. Et surtout, sa gentille petite sœur dont il fait une victime. Ah, vous l'élevez bien, votre Piolo. Le jour où le charcutier viendra en prendre livraison, ce sera un fameux débarras pour tout le monde.
Afin de ne pas entendre de pareilles abominations, Grommelotte enfouit sa tête dans une grosse touffe de vulpins et de dactyles en fleurs. C'était pourtant un joli petit cochon que Piolo, bien rose, bien dodu, avec le museau frais, le poil brillant, la queue en vrille. Mais il n'arrêtait pas de grogner. Quand ses frères et sœurs étaient encore à la ferme, c'étaient des querelles permanentes. Si, en jouant, il l'effleurait un peu, il l'avait tué. Si, las de son mauvais caractère, il lui tournait le dos, on ne l'aimait pas, on lui voulait du mal, tout le monde était contre lui. À peine était-il réuni autour de la pâtée que les gémissements de Piolo commençaient. Il était trop serré, on lui gardait la plus mauvaise place, les autres mettaient leurs pieds dans l'auge. Eux répondaient impatientés.
Et mais il est tien également qui t'en empêche.
Le grognon se décidait à suivre ce conseil à la minute exacte où tout le monde, se retirant, l'équilibre était rompu et l'augette culbutait par-dessus sa tête. Alors, il fallait entendre les cris de Piolo et les imprécations de Groumelotte, car pour elle, son pauvre petit était une perpétuelle victime. Une fois, Zébie, la servante, lui donna une pâtée pour lui tout seul. Vous croyez peut-être que le voilà content.
Ah bien oui.
Vite, il court à ses frères et s'écrie en pleurant.
On leur donne de bonnes choses et à moi des mauvaises. C'est pour cela qu'on me sert à part.
Le fait est que les autres, en manière de plaisanterie, faisaient semblant d'avoir mangé des mets extraordinaires. Car il faut convenir, pour être juste, qu'ils s'amusaient parfois à le taquiner, tellement il était comique dans ses lamentations. Il n'y avait que Flochette qui essaya de le consoler. Et elle était accueillie par des coups de groin et de mauvaises paroles. Il arriva qu'un jour, c'était au temps de la fameuse épine, un bonhomme vint à la ferme conduisant une très grande carriole. Tous, le maître, la maîtresse, le valet, la servante, plus le bonhomme, s'assemblent autour du toit à porc. On attrape les petits l'un après l'autre. On les prend par les pattes et on les secoue pour évaluer leur poids. On les pince pour apprécier la fermeté de leur chair. On les examine aux yeux, à la bouche et jusqu'aux pieds pour s'assurer de leur santé. Puis on marchande, on discute, on se fâche, on se raccommode, tout le monde se plaint et au fond, tout le monde est content. Finalement, on s'accorde. Hop, hop, 10 des jeunes porcs sont hissés dans la carriole qui s'éloigne au grand trot. Piolo et Flochette restent seuls, un peu ébaubis de tout ce qu'ils viennent de voir. Naturellement, le grognon ne perd pas une si belle occasion de gémir.
« Pourquoi ne m'a-t-on pas emmené comme les autres ? Oh, oh, oh !»
Béryl, qui avait été au régiment avec Gamin, le cheval du marchand de cochons, se trouvait là pour lui souhaiter la bienvenue.
« Parce que tu as mal aux pieds, » fit-il rudement.
« J'aurais voulu partir aussi. »
« Eh bien, il ne fallait pas faire une colère l'autre jour et trépigner sur le fagot d'épines. »
« Et Flochette,
Flochette est si gentille qu'on n'a pas voulu la vendre. On la garde ici pour l'élever.
Mais les autres sont-ils allés où ?
Au marché de Pont-l'Évêque, où les paysans les achèteront pour les engraisser.
Et quand ils seront gras ?
Quand ils seront gras, ne t'informe pas trop de ce que l'on fera d'eux. Tu le sauras toujours assez vite, mon pauvre Piolo. Répondit le cheval pommelé que le grognon ennuyait, mais qui tout de même ne lui voulait pas de mal.
Groumelotte essaya de placer un mot de consolation.
« Ne te chagrine pas, mon petit, tu seras bien mieux avec ta maman. »« Je m'ennuie avec vous, » répondit le vilain qui tarabussait jusqu'à sa mère. « J'aimais mieux les autres avec lesquels je pouvais jouer. »
Oui, et quand ils étaient ici, tu n'arrêtais pas de te plaindre d'eux. Écoute, Piolo, en voilà assez. Tais-toi si tu ne veux pas recevoir une bonne correction. » Quelques jours plus tard, nouvelle comédie. Piolo aperçoit de l'autre côté de la haie des porcs qui avaient un anneau dans le nez.
« Pourquoi leur a-t-on mis cet anneau ? » demande-t-il de son ton toujours désagréable.
Comme d'habitude, ce fut Béryl qui fournit l'explication.
« Parce qu'ils fouillaient la terre, » répondit-il.
« Est-ce que cela leur fait mal ?»«
Sans doute. Autrement, on ne se serait pas mis pour eux en frais de bijouterie.
« Je ne veux pas qu'on me mette d'anneau dans le nez, moi. »«
Eh bien, tu n'auras qu'à ne pas fouiller la terre. »
« Mais je veux fouiller la terre et je ne veux pas d'anneau. »
« Demande alors qu'on t'envoie au pays des truffes. »
« Je veux rester ici et je veux fouiller la terre et je ne veux pas qu'on me fasse du mal avec un anneau dans le nez, » cria Piolo en trépignant.
Les bêtes de la ferme étaient tellement lasses des perpétuelles criailleries du jeune cochon qu'elle l'avait prise en grippe. Tous, les vaches et leurs veaux, les juments et leurs poulains, la chèvre et jusqu'à l'âne et au mouton, éclatèrent en cœur.
« Tais-toi un peu, Piolo. Il y a de quoi devenir fou avec toi. »
Si bien que la maîtresse et la servante vinrent sur le seuil voir ce qui se passait. Justement, elles étaient en conciliabule important et mystérieux. On mariait la fille de la ferme avec le fils du charron, et il s'agissait d'établir le repas de noces. La patronne voulait quelque chose qui dépassa tout ce qui s'était encore vu. On avait déjà décidé la soupe et le bœuf, une triple paire de poulets, un carré de veau, un civet de lièvre, des langues au cornichon, la grande oie blanche, un salmi de canard, des côtes d'aloyau, le plus gros dindon, des gigots de prés salés, des petits pots de crème au chocolat, plus une galette au beurre, des feuilletés, des noroles, des tartes aux fruits, et le gâteau de la mariée tout croquant de sucre rose. La fermière n'était pas encore satisfaite. Il lui semblait que lorsque la fille du meunier avait épousé le garçon du maréchal, le repas avait été plus corsé, plus nourrissant. Zébie, qui était friande, proposa un renfort de pâtisserie. Mais la maîtresse hocha la tête.
« Quoi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec tes gâteaux, ma fille? On n'a pas plutôt cela dans la bouche que c'est fondu. Cela coûte cher. » Et cela ne profite à personne.
C'est à ce moment même que Piolo jugeait à propos de mettre la ferme en révolution pour un anneau que son nez ne devait peut-être jamais connaître. Maîtresse, fit Zébie, désireuse de réparer son échec. Si on servait Piolo, tout entier, bien étuvé dans son jus, c'est cela qui ferait un joli plat. Tu as une bonne idée, ma fille. Les meuniers, eux, n'avaient pas de cochon de lait. Et cela tiendra plus de place que tes dariolettes. Et voici comment Piolo, pour s'être fait entendre, à un moment inopportun, eut les honneurs d'un repas de noces, honneur dont il se fût bien passé, le pauvre.